cette recherche sur la justice d'exception, en fait, elle s'inscrit dans la lignée de mes travaux précédents, qui portaient sur la répression politique, la répression des opposants et la répression des ennemis intérieurs, puisque mon doctorat, de sciences politiques portait sur les procès politiques qui ont touché le Parti communiste français pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et donc c'est ce travail sur la répression des ennemis intérieurs que je voulais poursuivre. Et pour ce livre-là, c'est-à-dire pour Justice d'exception, je me suis penchée sur une juridiction d'exception, la Cour de sûreté de l'État, qui a été voulue par le général de Gaulle, créée à la fin de la guerre d'Algérie pour réprimer les membres de l'OAS, et qui en réalité a été supprimée ensuite en 1981 par François Mitterrand et Robert Badinter. Ce qui m'a intéressé dans cette juridiction d'exception-là, c'est sa singularité dans l'histoire de la justice française. C'est-à-dire que, contrairement à tous les précédents tribunaux spéciaux qui ont émaillé notre histoire de la justice, je pense à Vichy, je pense à la Libération, je pense à la guerre d'Algérie, la Cour de sûreté de l'État a été créée pour durer. Tandis que les précédentes juridictions d'exception ne fonctionnaient que quelques mois pour éradiquer très rapidement une cible très précise, celle-ci, la Cour de sûreté de l'État, a duré, a fonctionné pendant 18 ans et a jugé 5000 personnes au profil tout à fait différent. Et cette durée de vie inédite pour une juridiction d'exception m'a permis d'interroger deux phénomènes qui sont propres au recours à l'exception dans les régimes démocratiques. Le premier phénomène, c'est l'institutionnalisation de l'exception, c'est-à-dire sa pérennisation, son intégration dans l'appareil répressif, ou pour le dire plus clairement, comment l'exception intègre le droit commun. Et puis le deuxième phénomène que je voulais étudier, c'était les mutations de régimes répressifs aggravés, c'est-à-dire de régimes répressifs qui sont exorbitants du droit commun, comme par exemple la garde à vue prolongée, et la manière dont ces régimes répressifs s'adaptent à différents contextes et à différents ennemis intérieurs.
Les oubliés du rêve américain, c'est la restitution d'une enquête ethnographique menée auprès d'une fondation philanthropique à Boston, dans le nord-est des États-Unis. Et l'objet de cette enquête, c'est de comprendre la formation des inégalités sociales aux États-Unis, donc de comprendre comment l'accumulation de la richesse dans les catégories les plus favorisées, eh bien, elle se traduit par une transformation de la redistribution sous forme privée, sous forme de dons philanthropiques qui est assurée donc, par ces catégories supérieures. Et l'enquête, elle présente la manière dont, dans un quartier spécifique de la ville de Boston, un quartier très pauvre et très ségrégé, eh bien, les philanthropes vont trouver un écho de la part de la population. Et donc, le livre décrit la manière dont cette rencontre entre les catégories les plus élevées de la société et les catégories les plus en difficulté va se faire autour du lien philanthropique. Donc, il ne s'agit certainement pas d'enchanter ce lien et le don entre le don philanthropique, mais simplement d'étudier la formation et la justification des inégalités à travers cette forme de redistribution et de comprendre pourquoi, finalement, elle rencontre une certaine forme d'appréciation, d'écho, y compris de la part de ceux qui sont les oubliés du rêve américain.